Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact pour vous accompagner. Je salue chaleureusement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent à Bamako sur le 99.5 FM. Au programme de notre émission d'aujourd'hui, le Festival international de la jeunesse s'est clôturé sur le territoire de Sirius, dans le sud de la Russie. Nous écouterons le discours de clôture prononcé par le président russe devant les participants. Le sommet africain sur l'intelligence artificielle et les médias vient de s'achever à Yaoundé. La ministre camerounaise des Postes et des Télécommunications a évoqué l'importance de la tenue de cet événement. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, a déclaré à notre micro que son pays souhaitait rejoindre les BRICS. Un chroniqueur béninois réagira à cette démarche d'Abuja. Les armes destinées à l'Ukraine finissent souvent dans les mains de groupes terroristes en Afrique. Un expert malien reviendra sur l'importance de ce problème. Les militaires burkinabés apprennent actuellement de nouvelles méthodes de combat après le départ du pays des militaires français. Un panafricaniste burkinabé nous commentera ces nouvelles approches enseignées aux soldats burkinabés. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Radio Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Le Festival international de la jeunesse, dont Spoutnik est un partenaire médiatique, s'est clôturé hier. Des conférences ont été organisées pour les plus de 20 000 jeunes qui étaient venus de plus de 180 pays sur le territoire de Sirius, au bord de la mer Noire. Des membres du gouvernement russe, mais également des chefs de grandes entreprises, ont fait l'honneur de donner des conférences devant les participants. Ces derniers ont notamment pu se familiariser avec les technologies de pointe russes, mais aussi découvrir toutes les opportunités que la Russie peut leur offrir. Le président Vladimir Poutine s'est rendu en personne sur le territoire de Sirius pour prononcer devant les jeunes participants le discours de clôture du festival que je vous propose d'écouter tout de suite.
Chers amis, accueillez le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Bonsoir, chers amis. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, vous êtes de bonne humeur, mais vous avez peut-être aussi une touche de tristesse, puisque vous êtes obligé de maintenant de quitter ceux qui sont devenus vos nouveaux amis. Et quand nous avons proposé de venir en Russie, nous nous sommes fixés des objectifs relativement simples. Nous voulions réunir les conditions favorables à la création artistique, à la possibilité d'échanger entre vous, de trouver des partenaires pour vos nouveaux projets, des amis, et j'espère que nous avons réussi. Merci beaucoup pour cette appréciation, mais vous avez réussi à faire plus que ce que nous attendions. Ce sont vous qui avez créé ici, dans le sud de la Russie, une véritable ville de jeunes venus du monde entier. Merci à vous. Vous êtes tous si divers. Je regarde la salle. Je vois que vous êtes tous différents. Je viens de rencontrer des jeunes qui font leurs études dans les universités de Russie, de pays différents. Vous êtes tous très différents. Comment avez-vous réussi à réaliser cette ville des jeunes du monde entier? Ça signifie qu'il y a quelque chose qui nous unit tous. Aujourd'hui, en Russie, nous appelons ça nos valeurs traditionnelles. C'est le fondement de notre vie quotidienne, de notre existence. Et donc, il y a quelque chose qui nous est proche à tous. Et la première chose qui vient à l'esprit, c'est que malgré le fait que nous avons des apparences diverses, il suffit de regarder tous ces jeunes-là. Salut à tous. pour comprendre que nous sommes d'accord extérieurement, peut-être la couleur de peau et d'autres éléments. Mais nous sommes tous unis par une chose, c'est que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous égaux. Et si nous sommes tous égaux, il n'y a pas de place dans le monde pour une exclusivité, quelle qu'elle soit, une place pour l'arrogance, les mépris, l'arrogance, et tout cela qui constitue un terreau malsain pour l'égalité. Nous sommes tous égaux depuis le moment de notre naissance. Nous sommes tous égaux depuis le moment où, grâce à notre mère et notre père, c'est comme ça qu'on vient sur Terre, il n'y a pas d'autre moyen qui existe, malgré toutes les technologies de pointe. De toute façon, il y a toujours un principe féminin et un principe masculin. Et donc, nous sommes égaux au moment de notre naissance. Mais est-ce que nous grandissons dans des conditions égales? La réponse est malheureusement non. Les conditions ne sont pas égales pour tous dans le monde. Et c'est la plus grave injustice qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Et si vous me demandez, est-ce qu'on peut faire en sorte que tout soit dans des conditions égales pour grandir, pour se développer, pour faire valoir leurs talents, pour le bien de leur famille, de leur pays et de toute l'humanité? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, nous devons tous tendre à cet effort. Même le fait de tendre à résoudre cette solution fait que déjà le monde sera plus transparent, plus juste, plus démocratique, plus stable, plus équilibré et plus sûr. Chers amis, vous êtes venus en Russie, vous êtes fait de nombreux amis. Je voudrais que vous sachiez tous que toute la Russie est maintenant votre amie. Nous avons toujours les portes ouvertes pour vous tous, pour tous vos projets. Je suis convaincu que vous connaîtrez beaucoup de succès. Un des slogans du festival d'aujourd'hui, c'est « Commencer l'avenir ensemble ». Nous allons considérer que l'avenir a commencé, mais il dépendra de vous. Bonne chance à tous. Soyez heureux. Merci.
Pour faire le bilan de ce Festival international de la jeunesse, je laisse maintenant la parole à Anna, notre présentatrice virtuelle.
Ici Anna, présentatrice virtuelle de Spoutnik Afrique. 20 000 jeunes du monde entier sont venus en Russie, le pays devenant cette semaine un centre d'attraction. Le 1er mars, le Festival mondial de la jeunesse s'est ouvert à Sirius, sur le littoral russe de la mer Noire. Il s'agit du plus grand événement pour la jeunesse au monde. Plus de 300 000 personnes de 190 pays de tous les continents ont exprimé leur souhait d'y prendre part. Le festival a réuni des jeunes dans plus de 800 activités de formats variés, conférences et débats sur les sujets importants, compétitions sportives, événements caritatifs et culturels. Le festival présente une plateforme pour favoriser la coopération économique russo-africaine, a avancé au micro de Spoutnik la vice-ministre namibienne des Sports, de la Jeunesse et du Service National, Emma Kantmadiaoma.
L'Afrique est l'un des continents les plus jeunes. Nous comptons environ 60% ou plus de 60% de jeunes. Il est donc très important que nous investissions dans la jeunesse, car ce sont eux qui, en fin de compte, façonneront et dirigeront le développement du continent.
Étant en Russie, je vois que la Russie n'est pas isolée, a constaté le chef de la délégation ivoirienne Aboubakar Yaro, présent à l'événement.
La Russie est un pays avec beaucoup de cultures, beaucoup d'ethnies. En Afrique aussi, dans chaque pays, nous avons plus de 50 ethnies, 50 cultures. Donc dans ce domaine, regardez comment la Russie a pu organiser ce genre d'activité, ou bien ensemble organiser ce genre d'activité en Afrique, et avec une invitation pour la Russie qui va aussi présenter sa culture. Et je pense que ça va permettre de faciliter beaucoup la coopération Russie-Afrique.
En prenant la parole au festival, le chef de la diplomatie russe a souligné l'importance de la multipolarité qui doit être construite sur la pleine application du droit international. Selon lui, les BRICS représentent un modèle d'intégration qui se développe depuis de nombreuses années sur la base du consensus. Toutefois, Il n'a pas manqué de lancer une pique à l'Occident sur ce sujet.
Si l'on parcourt les pages de l'histoire d'après-guerre, il n'y a pas eu un seul conflit où l'Occident a respecté le principe de l'égalité souveraine des États. Partout et dans n'importe quelle situation, il a défendu ses intérêts unilatéraux et étroitement égoïstes, en violation de la Charte des Nations Unies. L'aide déjà fournie à l'Ukraine s'élève déjà à 250 milliards de dollars sur 2 ans. Durant la même période, tous les pays africains ont reçu de l'Occident et des institutions occidentales un total de 60 milliards de dollars. Les priorités de l'Occident sont donc claires.
L'un des participants américains a même adressé un message à Joe Biden en marge du festival. Le secrétaire international du Parti communiste américain, Christopher Relahi, a témoigné du fait que l'économie russe est florissante.
Je peux dire au gouvernement américain que les sanctions contre la Russie ont échoué. Elles n'ont pas fonctionné. En fait, elles ont eu un effet boomerang. Le peuple russe est fort. L'économie russe est florissante. Il y a de la nourriture, de l'énergie, tout ce que vous voulez ici. C'est absolument incroyable à voir. Donc, le président Biden et le reste des élites aux États-Unis, vous avez échoué.
S'étant déroulé dans une ambiance d'amitié, d'unité et de solidarité, le Festival mondial de la jeunesse a offert des expériences inoubliables à ses participants.
C'est un événement vraiment fantastique que nous voyons ici, parce que beaucoup de gens viennent de différentes régions, surtout ceux qui sont jeunes, âgés de moins de 35 ans. C'est donc vraiment agréable de se connecter les uns aux autres pour l'avenir, et c'est une très bonne opportunité pour nous de nous rencontrer ici.
C'est tout pour cette semaine. Restez connectés et à la prochaine.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio. La présentatrice virtuelle Anna est devenue la star du sommet africain sur l'intelligence artificielle et les médias qui a été organisé par l'Union africaine de radiodiffusion et l'UNESCO à Yaoundé, dans la capitale du Cameroun. L'expérience de Spoutnik Afrique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle a suscité un grand intérêt de la part des participants qui ont manifesté leur volonté de coopérer à l'avenir avec notre agence de presse. Placée sous le thème de « Les nouvelles frontières des médias africains, l'intelligence artificielle », la conférence avait pour but de se questionner sur l'automatisation des processus éditoriaux ainsi que sur l'impact de l'IA dans la diversité et l'intégrité de l'information. Au micro de Spoutnik Afrique, Minette Libom Li-Likeng, ministre camerounaise des Postes et des Télécommunications, a commenté l'importance de la tenue de ce sommet et l'intérêt des médias africains à coopérer avec Spoutnik Afrique. Écoutons-la tout de suite.
Dès lors que le Cameroun entretient déjà de très bonnes relations avec la Russie, le Cameroun a abrité un événement qui est stratégique pour le développement. Donc il était important que la Russie, qui elle est déjà avancée, puisse être présente pour savoir ce qui se passe en Afrique. Dans les médias, que ce soit les médias ou même les populations, avec le numérique, vous savez que ces technologies disruptives ont été créées pour qu'on ne respecte plus les frontières. Ça veut dire que pour qu'on s'en sorte, il faut de la coopération internationale. Donc on a besoin de se soutenir pour travailler ensemble, mais dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup à nous apporter parce que vous avez une expertise. Comme nous aussi, nous voulons protéger notre identité et rester africains parce qu'on a notre mot à dire. Donc nous sommes ouverts à la coopération internationale. Voilà pourquoi ce sommet-ci est un sommet international. Le numérique transforme tous les métiers du monde. La révolution numérique influence notre façon de communiquer, notre façon de travailler, notre façon d'interagir. Et quand on sait le rôle des médias, c'est d'informer, c'est d'éduquer les populations. Donc automatiquement, la façon de fonctionner des médias est impactée par le développement du numérique. Et maintenant, pendant que cette technologie évolue, il y a l'intelligence artificielle, qui elle aussi, comme les TIC, ont été conçues pour faciliter, pour améliorer, ajouter de la valeur ajoutée à tout ce qu'on fait. Il se trouve donc que le grand niveau, c'est l'intelligence artificielle. Donc elle aussi maintenant, elle a besoin d'être contrôlée. Si elle n'est pas contrôlée, elle devient un danger. quelque chose qui a été conçu pour améliorer la façon de travailler devient un danger si on ne l'encadre pas. Donc les médias sont les plus exposés parce qu'avec l'intelligence artificielle, ils peuvent améliorer leur façon de travailler, ils peuvent améliorer les recherches, ils peuvent aller plus en profondeur. Mais il y a un risque. Si le journaliste perd l'essentiel de sa fonction, qui est vérifier avant de communiquer, s'il ne le fait plus, il sombre dans le buzz. Et on se retrouve en difficulté. Donc, il y a lieu pour l'Afrique qui a beaucoup de défis à relever que nos médias soient sensibilisés sur la bonne utilisation, pas maintenant des réseaux sociaux, mais la bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi les assises de Yaoundé sont très importantes, parce qu'à partir de là, les problèmes auxquels font face les Africains, les médias africains vont être présentés vis-à-vis de l'intelligence artificielle et les recommandations seront faites pour que chaque pays puisse autant qu'il le peut encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, former davantage ces journalistes, parce que c'est ça qui est question, il faut davantage éduquer, parce que quand on est éduqué, on connaît utiliser rien que le côté positif en laissant le côté négatif.
C'était Minette Libom Li Likeng, ministre camerounaise des Postes et des Télécommunications pour Sputnik Afrique. Elle a évoqué l'importance de la tenue du sommet sur l'intelligence artificielle à Yaoundé, ainsi que l'intérêt des médias africains à coopérer avec Sputnik Afrique, qui a de l'expérience dans ce domaine. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Youssouf Tougar, ministre nigérian des Affaires étrangères, était en visite à Moscou afin de rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie russe a déclaré que Moscou renforcera sa coopération avec Abuja dans le domaine énergétique, dans la construction d'infrastructures, dans la santé et dans l'éducation. Le ministre nigérian nous a ensuite accordé du temps pour une interview exclusive dans laquelle il nous a fait une grosse annonce. Le Nigeria envisage d'adhérer aux BRICS. Je vous propose d'écouter le ministre à ce sujet tout de suite.
Le Nigeria a déjà exprimé son intérêt à rejoindre les BRICS. Avez-vous officiellement demandé à rejoindre la communauté des BRICS ou avez-vous l'intention de le faire ?
Nous avons l'intention de le faire. Comme je l'ai déjà dit, le Nigeria a un système démocratique, délibératif. Il y a donc beaucoup d'engagement avec les différents groupes d'intérêt, les différents organes internes, avant qu'une telle action ne soit entreprise. Ce qui est clair, ce qui est visible, c'est que le vice-président Kashim Shettima était présent en Afrique du Sud lors du dernier sommet des BRICS. Nous sommes donc très enthousiastes. Nous l'attendons avec impatience.
Récemment, le Nigeria a reçu une cargaison de 34 000 tonnes d'engrais en provenance de Russie. Avez-vous discuté avec votre homologue russe de la réception d'autres cargaisons humanitaires? Si c'est le cas, quand et de quoi s'agit-il exactement?
Nous avons discuté de l'aide apportée au Nigeria en termes d'engrais. Je les remercie pour ce geste aimable. Le Nigeria est très reconnaissant. Le Nigeria considère que la sécurité alimentaire est primordiale. En fait, le président Tinubu a un programme en 8 points, dont le premier est la sécurité alimentaire. C'est donc quelque chose que nous prenons très au sérieux. Dans le même temps, nous avons une initiative présidentielle sur les engrais qui a permis d'augmenter la production d'engrais au Nigeria. Nous avons donc des usines de mélange pour les engrais NPK et beaucoup d'entreprises ont investi dans ce domaine, ce qui nous a permis de constater une amélioration remarquable, car la sécurité alimentaire est très importante pour nous.
Vous avez indiqué que le Nigeria s'intéresse à l'énergie nucléaire, qu'il s'agisse de construire une centrale nucléaire ou d'utiliser l'énergie nucléaire dans le domaine médical. Pouvez-vous nous dire où en sont les discussions avec la Russie dans ce domaine? Et avez-vous décidé si vous avez besoin d'une petite centrale nucléaire ou d'une grande centrale de grande capacité?
Oui, cet engagement est une chose qui existe depuis longtemps entre le Nigeria et la Russie. Ce n'est pas nouveau. En fait, le président de la Commission nigériane de l'énergie nucléaire fait partie de ma délégation et des Nigériens sont déjà formés à la recherche nucléaire. Et bien sûr, le nucléaire est un domaine qui a de nombreuses applications. Il ne s'agit donc pas seulement de produire de l'électricité et de l'énergie, mais aussi des applications médicales, comme le traitement par radiation, des applications agricoles et industrielles. Nous envisageons donc toute la gamme. Nous l'envisageons de manière intégrale. Et nous sommes heureux et chanceux d'avoir la Russie comme partenaire.
Aujourd'hui, la question de la coopération militaire a également été soulevée. Le ministre Lavrov a déclaré que la Russie envisageait d'étendre sa coopération militaire avec le Nigeria. Êtes-vous intéressé par cette idée? Et dans quel domaine souhaiteriez-vous renforcer la coopération?
Everything, kinetic, non-kinetic, Nigeria.
Tout, cinétique et non cinétique. Le Nigeria est un grand pays situé dans une région confrontée à de nombreux défis. Sur le plan intérieur, en raison de la croissance rapide de la population et du taux de pauvreté, les problèmes de sécurité sont nombreux. Un Nigeria fort ou un Nigeria plus fort se traduit donc par une région plus fiable, ce qui est dans l'intérêt de toute la planète.
N'y a-t-il pas de pression occidentale contre la coopération et la coopération militaire avec la Russie?
Vous devez comprendre une chose. Le Nigeria n'est pas le genre de pays qui succombe aux pressions. Nous avons toujours été déterminés depuis le début. Depuis que nous sommes devenus indépendants en 1960, nous avons rejoint le mouvement des non-alignés. Nous faisons ce que nous pensons être bon pour notre pays. Personne ne nous dicte quoi que ce soit.
Modeste Dossou, chroniqueur béninois, a réagi à notre micro à cette volonté d'Abuja de rejoindre les BRICS. Écoutons-le tout de suite. Le ministre nigérian des Affaires étrangères a effectué une visite à Moscou. Depuis le début de l'année 2024, des responsables africains enchaînent leurs visites en Russie. Comment pourriez-vous expliquer cette intensification des contacts de haut niveau et quels sont leurs enjeux?
Je pense que l'afflux des pays africains, des responsables africains vers Moscou est quand même révélateur de ce qui se passe aujourd'hui. C'est révélateur d'une modification réelle de la géopolitique mondiale. Il n'y a plus d'hégémonie occidentale. Malgré les sanctions, malgré les pressions faites sur les pays africains pour qu'ils ne collaborent pas avec la Russie actuelle. Et c'est maintenant, malgré tout, ce qu'on fait pour isoler la Russie, c'est maintenant que les pays africains ont trouvé pour se rapprocher de la Russie. Même ces pays qui n'étaient pas tout proches de la Russie se sont rapprochés de Moscou. Cela quand même révèle le fait que ces pays expriment un certain ras-le-bol de l'hégémonie occidentale, d'un monde unipolaire, et ils veulent pouvoir collaborer avec tout le monde sans qu'il y ait une pression, sans qu'il y ait une ingérence dans leur politique intérieure. Je pense que c'est ce qui évoque cet afflux de dirigeants africains vers Moscou, alors même que c'était un moment pour les Occidentaux de leur dire « Non, n'y allez pas, isolons la Russie, montrez que vous êtes avec nous ». Cet afflux de dirigeants africains vers Moscou montre quand même que l'Afrique n'a pas pris parti. L'Afrique est restée plutôt plus ou moins impartiale dans le monde et a révélé aussi que l'Afrique ne prend pas la Russie pour le diable que les Occidentaux ont tenté de faire voir. Et avec le Nigeria aussi qui commence à suivre qui suit le mouvement. C'est vrai, le Nigeria a une relation de longue date avec la Russie. Cette fois, suivant le mouvement actuel, cela signifie quand même que le Nigeria aussi est entré dans une forme de reconnaissance de la multipolarité du monde. Et sans prendre parti, le Nigeria évoque aussi et met aussi son ras-le-bol par rapport à l'unipolarité du monde, les pressions occidentales et le pays le plus peuplé et le plus riche d'Afrique aujourd'hui est en train d'intensifier sa collaboration avec la Russie malgré tout. Donc je pense que c'est anecdotique, c'est révélateur d'un changement global dans le monde, d'un changement de géopolitique dans le monde.
L'un des sujets que le chef de la diplomatie nigériane a abordé lors de cette visite est la coopération dans le domaine nucléaire. Comment l'expérience russe peut-elle être utile pour le Nigeria?
Quand un pays évoque collaboration avec la Russie dans le domaine nucléaire, c'est devenu normal parce que aujourd'hui, dans le monde entier, sur toute la planète, la Russie se présente comme le champion du nucléaire aujourd'hui. Rosatom, la société russe, se présente comme le champion du nucléaire. Donc, on ne peut pas parler de nucléaire, d'expertise en nucléaire, sans parler de la Russie. Donc, du coup, le besoin des pays africains d'avoir recours au nucléaire civil ne peut se réaliser qu'en collaborant avec Moscou, puisque ce n'est pas évident que d'autres pays, surtout les pays occidentaux, acceptent cette collaboration, vu que il n'y a pas longtemps, ces mêmes pays occidentaux ont fait signer à des pays africains la non-prolifération de l'uranium. Donc, il faut comprendre quand même qu'ils ne veulent pas que le nucléaire arrive en Afrique. Après, bon, écoute, il y a plusieurs considérations aussi. Cependant, je pense que la Russie, c'est le champion du nucléaire et la Russie fait preuve de bonne foi en acceptant apporter son expertise et son aide à certains pays africains. On a vu avec le Mali ou le Burkina Faso et d'autres pays aussi, l'Égypte par exemple, l'Égypte où ça a même commencé la construction d'une centrale nucléaire. Donc, je pense que pour avoir gain de cause rapidement et avoir des thèmes de collaboration plutôt intéressants, je pense que le mieux, c'est la Russie. C'est ce que a choisi le Nigeria dans sa politique de développement du nucléaire civil.
Le Nigeria a manifesté son intérêt à rejoindre le groupe des BRICS dans un avenir proche. Vu son poids économique, comment voyez-vous les causes de ce souhait alors que le groupe compte déjà 3 pays africains?
L'adhésion du Nigeria va renforcer le poids des BRICS, mais l'idée même de l'adhésion du Nigeria est une idée plutôt de plusieurs pays, surtout les pays africains et d'Amérique du Sud ou d'Asie. C'est leur ambition aussi d'adhérer aux BRICS. Pourquoi? Parce que les BRICS offrent une alternative sérieuse à plusieurs autres organisations qui ont été, en parenthèse, prises en otage par le monde occidental. Et dans ces organisations, il n'y a plus l'équilibre qu'il faut et le respect des tests en vigueur ne sont plus d'actualité vu que quand ça n'arrange pas une puissance occidentale, les tests peuvent être revus, les tests peuvent être manipulés et tout. Mais avec les BRICS, avec la multipolarité et qui se trouve dans les BRICS, avec la sincérité que cela offre, et plusieurs pays veulent adhérer. Et le Nigeria est assez intéressant parce que avec son poids économique, cela va booster aussi, surtout en Afrique, le développement de plusieurs pays, parce que les BRICS travaillent quand même comme le disent les Chinois, comme une communauté de destin. Cela vraiment va véritablement ouvrir la voie à une forme de coopération gagnant-gagnant et qui ne sera pas dirigée par un groupe précis, mais ce sera une égalité parfaite parmi les pays qui s'y retrouveraient. Et la coopération serait respectueuse des réalités de chaque pays. Je pense que l'alternative des BRICS est assez intéressante. Et le Nigeria a vu cela. Le Nigeria a vu cela comme une opportunité de développement, une opportunité d'agrandir, d'améliorer son économie et de devenir, pourquoi pas, une des puissances économiques du monde entier. Le Nigeria, c'est quand même un membre de l'OPEP, un grand producteur de pétrole. Au-delà de ça, c'est une puissance démographique énorme. Je pense que c'est à la fois une aubaine pour les BRICS et aussi une bonne opportunité pour le Nigeria de se développer.
C'était Modeste Dossou, chroniqueur béninois pour Spoutnik Afrique. Il a commenté l'annonce du ministre nigérian des Affaires étrangères qui a déclaré à notre micro qu'Abuja souhaitait rejoindre les BRICS. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique à Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Lors d'une conférence de presse, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, a répondu à une question de Sputnik Afrique concernant la contrebande d'armes occidentales depuis l'Ukraine vers son continent. Selon lui, le Nigeria est très préoccupé par la déferlante d'armes dans la région du Sahel. Écoutons le chef de la diplomatie nigériane.
Eh bien, vous voyez, cela fait partie du problème qui concerne les conflits mondiaux ou les conflits même dans d'autres régions. Invariablement, lorsqu'il y a une augmentation de l'approvisionnement en armes, ils ont tendance à se rendre dans notre région. C'est pourquoi nous avons toujours été préoccupés par la prolifération des armes légères et de petit calibre. Nous avons vu quelque chose de semblable se produire avec l'effondrement du gouvernement en Libye il y a quelques années. Il y a eu tout d'un coup une énorme explosion d'armes, même de combattants. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup et que nous cherchons à régler avec nos partenaires.
En effet, le continent africain connaît malheureusement très bien le problème du trafic illégal d'armes. Depuis le début du conflit en Ukraine, des armes destinées à Kiev ont fini sur les marchés noirs pour ensuite atterrir dans les mains des groupes terroristes en Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Ali Tunkara, analyste politique malien et directeur exécutif du Centre d'études sécuritaires et stratégiques du Sahel, est revenu sur la pertinence de ce problème pour les pays africains. Malheureusement, avec le conflit ukrainien, on a des armes qui sont fournies par l'Occident à Kiev, qui finissent par atterrir sur les marchés noirs, pour, in fine, finir dans les mains des terroristes en Afrique. Les pays occidentaux sont-ils incapables de contrôler ces flux d'armes? Et pourquoi ferment-ils les yeux?
C'est que le contrôle des armes relève avant tout de la responsabilité des États en proie au conflit, et même des États aujourd'hui qui ne sont pas dans une situation de guerre ou de conflit, il relève de la responsabilité prime abord de contrôler de façon effective et réelle la circulation de ces armes. Maintenant, en ce qui concerne les pays occidentaux, beaucoup d'usines d'armement ou d'industries d'armement ne sont pas dans la charité. C'est pas mal des vies humaines. Tout ce qui intéresserait ces différentes firmes d'armement, c'est les profits. Du moment où on arrive à se faire la belle part du gâteau, on se soucie moins des questions d'éthique, des questions d'orthodoxie et même du respect des réglementations requises à cet effet. Donc, en somme, ce sont les pays africains qui sont les premiers responsables du contrôle de ce mouvement des armes. De là aussi, il incombe à la communauté internationale, notamment aux industries d'armement, de rester conformes à l'éthique des métiers des armes, de rester conformes aux différentes réglementations qui sont nécessaires dans ce domaine. Mais l'on constate que ni les États, ni les industries d'armement ne seraient soucieux du sort des populations, notamment africaines.
Est-ce que vous disposez d'informations sur les canaux par lesquels les armes destinées à l'Ukraine ont été ensuite acheminées vers le marché noir?
Alors, c'est vrai que lorsqu'un pays est en guerre, comme le cas de l'Ukraine, naturellement, l'État est défaillant. De là, beaucoup d'acteurs profiteraient de cette défaillance de l'État ukrainien de transiter ou de faire sortir des armes à destination de différents pays. L'autre élément important, les différents conflits dont l'Afrique fait l'objet, ce sont des conflits qui sont quand même traversés par des interférences des puissances militaires occidentales, lesquelles interférences pouvaient, par moment, par endroit, faciliter la circulation d'un certain nombre d'armements via l'Ukraine et même via d'autres pays. Donc, l'Afrique étant le carrefour des convoitises, étant le carrefour des interférences, il n'y a rien d'étonnant que de complicités individuelles et même de complicités étatiques soient derrière ces flux d'armement d'Ukraine vers le Sahel.
Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces flux d'armes illégales?
Il est difficile de mettre un terme à cela, mais néanmoins, il faut que les États africains arrivent d'abord à multiplier davantage le contrôle au niveau des frontières, avec des contrôles qui pourraient se faire sous un même commandement. Autrement dit, par exemple, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal doivent travailler de concert afin que la mobilité, le flux de ces armes soit allégé. Or, on se rend compte que les États ne sont pas forcément dans une telle dynamique de collaboration, de coopération en ce qui concerne la situation des armes. L'autre élément marquant, il faudra que les pays africains parviennent à dégager leur propre jeu politique vis-à-vis de l'Occident. C'est partant de cela qu'ils peuvent manifester une certaine solidarité entre eux, une certaine forme d'aide entre eux. Mais du moment où les pays africains vont rester inféodés aux pays occidentaux, vont rester très influencés par un certain nombre de pays en Occident, il va être très difficile pour que des initiatives allant dans le sens de la coordination des efforts, des initiatives allant dans le sens de coopération mutualisée prennent le corps. Donc je pense qu'une fois que tous ces aspects évoqués réunis, bon, l'Afrique pourrait espérer dans un avenir relativement long de réduire de façon drastique le flux de ces armes.
Ne pensez-vous pas que la lutte de la Russie contre le régime corrompu de Kiev qui vend des armes aux terroristes est également une contribution importante à la sécurité de l'Afrique?
Parce que lorsqu'on est un peu, quand on regarde à partir de lunettes africaines, on a l'impression que la Russie est très loin de l'Afrique, mais lorsqu'on regarde également l'intensité des conflits dans certains pays africains, je pense au cas du Soudan, même du Soudan du Sud, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, sont des éléments qui laissent entendre que toute initiative allant dans le sens de la lutte contre le trafic, dans le sens de la lutte contre la circulation des armes, reste à saluer dans le cadre du retour à une paix durable dans le contexte africain.
La Russie développe de façon active sa coopération militaro-technique avec les pays africains, comme nous le savons. Et comment évaluez-vous les résultats de cette coopération dans la lutte contre le terrorisme sur le continent? Et selon vous, quels sont les domaines qui vous semblent particulièrement importants?
Parce que les militaires au pouvoir, même les civils, qui ont remué davantage les partenariats militaires avec la Russie, arrivent régulièrement à remporter des victoires sur l'ennemi. Je pense que ça sont des aspects qui sont à encourager. Maintenant, s'il y a lieu d'interroger cette collaboration aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce qui avait été reproché à des puissances comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Europe de façon générale, en termes d'interférence, que la Russie ne tombe pas dans ce genre d'interférence dans les domaines des étapes. Autre élément important pour que cette collaboration avec la Russie devienne davantage fructueuse, que la Russie ne met jamais les armes sur la touche. Or, on a vu qu'effectivement, avec certaines interventions occidentales, les armes en face étaient considérées comme des armes accessoires. Je pense que si la Russie venait à éviter ces erreurs commises par d'autres partenaires, naturellement, d'ici 10 ans, l'apport russe dans le retour à une paix durable dans le contexte africain pourrait être davantage apprécié positivement à la fois par les Sahéliens et par le reste du monde. Donc, de collaboration d'égal à égal, de collaboration qui ne vont pas sous-estimer les armées sahéliennes, de collaboration qui ne vont pas prendre les armées sahéliennes comme des armées assujetties, mais de collaboration qui vont voir les armées sahéliennes comme des armées égales. Et une fois que cela est consolidé par la Russie, naturellement, les autres plans de développement ou de la coopération pourraient voir le jour s'agissant du domaine économique, de l'industrie, en passant par le commerce, sont entre autres des aspects qui dépendent en grande partie de cette coopération militaire.
La République centrafricaine a exprimé le souhait d'accueillir une base militaire russe sur son territoire. Et quelle importance aura-t-elle pour la sécurité de ce pays, ainsi que pour l'ensemble de la région ?
C'est que, pour le cas de la République centrafricaine, voilà un pays qui avait été déchiré pendant des années par des conflits meurtriers. Avec l'appui de la Russie, le pays a pu redorer son blason en termes de présence, l'étendue du territoire, en termes de l'effectivité de la gouvernance étatique, sur des pans entiers des territoires qui étaient entre les mains de groupes armés. Cette sollicitation à ce que l'armée ou la base militaire russe soit admise en République centrafricaine n'est que le prolongement de ce qui se passe déjà il y a quelques années de cela entre ce pays et la Fédération de la Russie. Donc, un témoignage éloquent de l'utilité de la coopération russe dans ce pays et par ricochet aussi un positionnement pour la Russie vis-à-vis de l'Occident et même vis-à-vis des autres pays qui sont en compétition dans le Sahel. Donc, de part et d'autre, la Centrafrique, la République fédérale de la Russie y gagnent dans cette coopération.
Dernière question, pourquoi l'Occident s'oppose-t-il au renforcement de la coopération russe parfaitement légale avec les gouvernements africains soutenus par les populations ?
Très souvent, c'est vrai que la compétition à laquelle la Russie, l'Occident s'adonne en Afrique est une compétition malheureusement qui interroge à combien de part et d'autre on est intéressé par les ressources naturelles. On ne veut pas que d'autres acteurs s'invitent dans ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, le conflit russo-ukrainien est un conflit qui est présent dans le Sahel par le simple fait que tous les soutiens de l'Ukraine s'opposeraient catégoriquement à toute présence russe dans le Sahel, comme si le Sahel ferait partie de l'Ukraine ou comme si le Sahel ferait partie de l'Occident. Je pense que cette condescendance vis-à-vis des pays africains expliquait le fait que la colonisation aujourd'hui, ces États ont toujours été inféodés aux anciennes puissances occidentales. Laquelle inféodation, il y a de militaires au pouvoir, même des civils au pouvoir, qui veulent mettre un terme à cela. C'est ce qui pose problème dans l'échiquier politique occidental, de comprendre qu'aujourd'hui, les Africains ne veulent plus vivre comme ils étaient dans les années 50-60, de comprendre que les Africains ils veulent dorénavant élargir leurs partenariats à qui ils le veulent, pourvu que ces partenariats soient utiles, soient gagnants-gagnants. Je pense que c'est cette justement pilule que l'Occident a du mal à l'avaler jusqu'ici.
C'était le docteur Ali Tounkara, analyste politique malien et directeur exécutif du Centre d'études sécuritaires et stratégiques du Sahel pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur le problème des armes qui sont destinées à Kiev, mais qui finissent dans les mains des groupes terroristes en Afrique. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique à Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints à l'écoute de notre émission Zone de Contact. Les militaires burkinabés apprennent de nouvelles méthodes en matière de combat. Depuis le départ des soldats français du pays, ils ont pu se familiariser à l'utilisation de matériel moderne, notamment des drones, qui jouent un rôle essentiel sur les terrains de conflit aujourd'hui. Ils savent désormais comment se comporter lorsqu'un de ces appareils apparaît sur le champ de bataille. Spoutnik a pu assister à un entraînement d'un groupe de militaires des forces spéciales. Dans le scénario de formation, ils apprenaient à trouver et à éliminer un groupe de terroristes. Au micro de Spoutnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, a commenté cette nouvelle approche enseignée aux militaires burkinabés. L'armée du Burkina Faso a commencé à utiliser de nouvelles méthodes pour former ses soldats. Un instructeur burkinabé indiquait à Spoutnik Afrique qu'auparavant, la formation des militaires du pays se concentrait sur des techniques standards qui ne tenaient pas compte des dernières tendances, Quelles pourraient être ces tendances?
On retient que, effectivement, la France a travaillé en sorte que nos armées non seulement ne soient pas assez équipées, parce que, à un moment donné, nos États avaient commencé à développer leur capacité à pouvoir produire des armes sur place et des munitions et de l'équipement militaire. Mais par la suite, on a vu que cette possibilité avait été anéantie. Il fallait maintenant payer les armes au plan international suivant un mécanisme défini par l'ONU. Et c'est la même chose aussi pour les formations qui passaient exactement par la France. Donc ce qui faisait que on avait des hommes, mais on n'avait pas de soldats aguerris au combat. Et cela s'est ressenti lorsque la crise terroriste est arrivée, où on s'est rendu compte que nos militaires n'étaient vraiment pas au point pour faire face à ce combat-là. Donc il fallait réadapter la formation des militaires, il fallait les équiper. Et il y a l'ennemi qui menace, donc il faut agir. Et c'est pourquoi le mécanisme de la France consistait donc, en situation de crise pareille, de leur faire appel à travers des conventions, à travers des protocoles. Et chaque fois, il fallait faire recours à la France. Et par ce mécanisme que nous qualifions d'instrument de domination, alors elle pouvait exercer toute sa domination et sa prédation sur ce qu'elle voulait prendre avec nos États. C'est alors que nos dirigeants, ayant compris la dangerosité de cette façon de faire, ont littéralement choisi de changer de partenaire. Et c'est dans le cadre de ce nouveau partenariat-là que, effectivement, il y a de nouvelles formes de formation des militaires pour mieux les adapter selon les nouveaux partenaires et aussi tenir compte des nouveaux équipements et du nouveau matériel dont disposent nos soldats. Aujourd'hui, nos soldats se déplacent avec la moto parce que le contexte de la guerre étant les pistes rurales et même souvent à pied. Donc il fallait s'adapter à la technique de l'ennemi, aller comprendre et puis s'adapter à la technique de l'ennemi. Il y a aussi des véhicules qui sont équipés d'armes qu'il faille entraîner comment est-ce qu'il faut les utiliser dans un environnement assez complexe. Donc c'est tous ces éléments-là qui indiquent les nouvelles tendances que nos soldats n'avaient pas l'habitude de faire. Il fallait donc les adapter par rapport au contexte de la guerre, par rapport au contexte du terrorisme.
Précédemment, c'était le contingent français qui s'occupait de la formation des soldats au Burkina Faso. Et dans quelle mesure la France souhaitait-elle vraiment que l'armée burkinabée lutte efficacement contre le terrorisme?
Comme je l'avais dit précédemment, la stratégie adoptée par la France n'était pas que nos pays soient à mesure de faire face au terrorisme, mais que nos États leur fassent appel pour qu'ils viennent nous aider pour faire le combat. Et vous avez tous suivi au Mali comme au Burkina, comme au Niger, où on les avait fait appel à travers leur base militaire, avec tous les équipements qu'ils disposaient. Ils n'ont pas pu effectivement trouver la réponse adaptée pour nos soldats, pour faire la guerre. Pire encore, la situation d'insécurité était devenue assez criarde et c'est ce qui a justifié les différents coups d'État qui se sont produits dans ces pays-là, parce que les militaires qui ont fait ces coups d'État et qui ont travaillé avec effectivement ces forces françaises sur le terrain ont compris que c'était une grosse arnaque et qu'il fallait, au nom du patriotisme, défendre leur pays. Donc la politique de la France, c'est comment maintenir ses hommes et comment exploiter les ressources de nos pays. Et lorsque, effectivement, les forces françaises ont été chassées du Mali, du Burkina et du Niger, et lorsque nos soldats ont pris en main la guerre, on voit aujourd'hui le recul du terrorisme. On voit aujourd'hui les victoires que nos militaires sont en train d'engranger et qui fait la fierté de nos populations. Surtout la quiétude que ça apporte. Aujourd'hui, au Burkina Faso, des villages qui étaient pris sont en train d'être relogés. On a reconquis certains territoires et les villageois sont en train de reloger dans leur village normalement pour vaquer sereinement à leurs occupations. Donc, c'est dire que ces militaires-là n'avaient pas tort d'avoir vite compris que le combat, il fallait que nos militaires soient équipés et formés, mais pas à la française, mais à une nouvelle, à de nouvelles méthodes. Et fort heureusement que la Russie, qui a été et qui est toujours le premier partenaire, a su apporter l'aide nécessaire qui permet aujourd'hui à nos pays d'être très efficaces et de répondre avec vigueur et force face à ce terrorisme-là.
Dans la vidéo filmée par le correspondant de Spoutnik au cours de l'entraînement, on a remarqué qu'une séquence était consacrée aux drones. Dans quelle mesure la maîtrise des drones est indispensable sur les terrains de conflit en Afrique aujourd'hui?
Cette maîtrise est vraiment très très essentielle dans le combat aujourd'hui. Alors au Burkina Faso, depuis que nous avons acquis les drones, lorsqu'au journal d'information de la télévision nationale et de la radio, régulièrement un point de l'action des drones est communiqué. Et c'est une émission, ou en tout cas c'est une partie du journal qui est assez suivie par la population, parce que le drone offre un avantage assez énorme. Et l'avantage du drone, c'est qu'il permet d'identifier les ennemis et il a la possibilité effectivement de les anéantir. C'est vrai qu'il coûte assez cher et ses munitions coûtent assez cher, mais c'est une arme qui est très adaptée, surtout quand on a des pays avec des territoires assez vastes. L'apport du drone est assez considérable. Donc il y a d'abord l'identification et le renseignement assez précis. Et il y a aussi l'action forte qui est le combat direct que le drone peut engager. Donc pour les pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, c'est un apport important parce qu'il permet de minimiser les pertes en vies humaines, mais il permet de mieux cibler l'ennemi, de l'identifier et de mieux le circonscrire. Et je pense que ce n'est pas le Burkina Faso seulement, et d'autres pays, même qui ne sont pas encore dans cette situation de guerre-là, ont acquis récemment et d'autres continuent d'acquérir des drones parce que c'est un outil, c'est un équipement militaire assez important au regard de son efficacité pour le combat et pour les soldats. Avant, lorsque on donnait effectivement le nombre de blessés ou le nombre de décès suite aux attaques, ça te faisait tellement très peur. Mais depuis que les drones sont arrivés, que les soldats ne sont plus assez exposés au combat direct. Et s'ils le sont, ils sont orientés, et ce qui minimise beaucoup les pertes de soldats sur le terrain. Je pense que nos pays continuent d'en acheter. Et tant qu'il y aura les moyens, il faut mettre les moyens pour véritablement s'équiper, parce que la guerre, elle est très longue.
La coopération militaro-technique se développe avec succès entre Moscou et Ouagadougou. Quelle est la valeur de l'expérience russe pour le Burkina Faso?
On retient de l'histoire que la Russie a été une nation, est toujours une nation de maîtres qui maîtrise le combat et l'art de la guerre. En témoignent les deux guerres mondiales passées où l'apport de la Russie a toujours été très bien apprécié, très bien connu. Même si la Fédération de Russie ne communique pas beaucoup, à travers l'histoire et à travers les documentaires ou de la documentation, on comprend aisément toute la puissance militaire de la Russie. Et aujourd'hui, avoir cette expérience, partager cette expérience avec le Burkina Faso, pour nous, c'est bon à prendre et c'est un avantage considérable. Et je vais encore me le répéter. Alors, sans l'accompagnement de la Russie, il est bien évident que le Burkina, le Mali et le Niger ne pouvaient pas aujourd'hui faire face à cet impérialisme qui a imposé la guerre du terrorisme au Sahel. Parce qu'on a compris que c'est l'impérialisme qui nous a imposé cette guerre. Et pour pouvoir faire face, il fallait un adversaire à la taille de cet impérialisme. Et c'est pourquoi l'aide de la Russie est très très importante. Et nous souhaitons davantage que cette coopération-là se poursuive pour nous permettre de nous en sortir des griefs de cet impérialisme-là. C'est d'ailleurs pourquoi nous prenons pour le multipolarisme au détriment du monde occidental qui veut se mettre en gendarme du monde. Souhaitons vivement que la géostratégie mondiale puisse s'organiser de façon multipolaire à ce que les nations, quelles qu'elles soient, puissent en toute souveraineté s'exercer pour le bénéfice de ces populations. Surtout pour nous, les pays africains, où le monde impérialiste occidental sème, écume les crises de pays en pays et prennent en otage nos dirigeants et nous impose à nos populations la misère, la désolation.
Au cours du conflit ukrainien, la supériorité des équipements militaires et des soldats russes sur les équipements occidentaux fournis à Kiev et sur les soldats ukrainiens formés par les instructeurs de l'OTAN est devenue évidente. Peut-on s'attendre à ce que de plus en plus de pays dans le monde, et en particulier en Afrique, se tournent vers l'équipement et l'expertise russe?
On l'a dit et on le répète, c'est une guerre par procuration. Quand on voit effectivement les différentes aides occidentales apportées à l'Ukraine dans le seul but de déstabiliser la Russie. Fort heureusement que la Russie étant une très grande nation de guerre s'adapte et sait contenir effectivement cette situation-là. Il n'y a l'ombre d'aucun doute que la suprématie militaire russe est une réalité. À tel point que les autres nations, je dirais même les États-Unis, ne en aucun moment ne sauraient déclarer une guerre à la Russie. Le président Macron très récemment a annoncé vouloir envoyer des troupes en Ukraine, ce qui signifierait une déclaration de guerre. Et bien avant ça, à travers les informations qu'on a reçues, c'est qu'il y a effectivement déjà des mercenaires du monde occidental et même des Américains, des Anglais, des Français qui ont été identifiés sur les lignes de front en Ukraine contre la Russie. Et malgré ces soldats aguerris, la Russie avance toujours de victoire en victoire. Les tentatives de l'OTAN de s'impliquer dans la guerre, telles que déclarées par Macron et décriées par le reste des dirigeants occidentaux, montrent à suffisance que la Russie est une puissance militaire de premier ordre et qu'on ne peut pas défier à tout vent. Du reste, nous avons compris toute la colère et la haine du président Macron. Nous avons compris qu'il voulait véritablement s'éterniser au Sahel et notamment en Afrique et en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale pour ses anciennes colonies. Et l'action de la Russie pour aider nos pays, le choc tellement qu'il n'arrive plus à se contrôler, à se maîtriser. Donc c'est pourquoi ces agitations qui se perpétuent et qui se répètent, et c'est pourquoi aussi nous en appelons à la Fédération de Russie de continuer de nous soutenir parce que la guerre est encore très très loin d'être finie, mais il y a de l'espoir et nous sommes confiants que nos pays pourront mettre fin à ce terrorisme-là.
C'était Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les nouvelles méthodes de combat enseignées aux militaires burkinabés depuis le départ des militaires français. Mesdames, Messieurs, le moment est venu pour Radio Spoutnik Afrique de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.